Bienvenue à la French Connection, épisode 145. Cette semaine, je suis avec Steve.
Et bonjour, eh oui, j'ai fait une belle intro, manquant d'activer le bouton, comme d'habitude.
C'est toujours très drôle, ça fait partie des running gags qu'on a. Donc, les Shameless Pug, ben, comme dans les derniers épisodes, il y a peu de choses qui se passent dans l'univers de l'événementiel, outre le fait que le COVID est encore un moment très palpitant dans nos vies avec les points de presse maintenant juste pendant la semaine. Je sais que Steve et moi, on a vu un contexte où la charge de travail a sensiblement augmenté. Donc, on est de partie des privilégiés qui ne sont pas touchés négativement par cet événement-là. Le weekly social physical distancing du Hackfest à toutes les semaines en bascule français-anglais sur chaque semaine pour les gens qui veulent avoir une interaction avec des gens. J'ai fait ma première expérience la semaine dernière. C'était fort agréable de discuter, de parler avec les gens de leur situation, de qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Il y a le Slack du Hackfest pour la santé mentale. Si vous avez senti des problèmes, vous sentez un peu inquiet, vous pouvez parler avec des gens sur ce canal-là pour énoncer vos préoccupations et peut-être vous faire guider vers des services nécessaires ou en tout cas un moyen de vous aider à sortir de cette anxiété qui peut vous habiter. La semaine numérique qui était supposée être cette semaine, dans le fond, on enregistre le 18 avril, mais avril devait être le Secure qui est malheureusement reporté à l'an prochain. Par contre, Québec numérique et Semaine numérique devraient annoncer, si ce n'est pas déjà fait, qu'il va y avoir une reprise d'événements comme ça où on va faire des capsules avec certains conférenciers qui étaient dans la cédule du Secure pour maintenir le volet et probablement avoir une semaine complète d'informations sécurité qui vont être diffusées. Donc, probablement toutes les conférences de l'année passée, les entrevues qu'on avait faites, ceux qu'on a retenus, qu'on n'a pas diffusées encore, qui vont être diffusées durant cette semaine-là. Ça va être une belle occasion d'avoir un concentré d'informations de sécurité pendant cette semaine-là qui va être annoncé dès que j'ai les dates. Elles seront diffusées à travers le podcast et à travers nos différents médias. Donc, commençons avec les nouvelles. Steve, orientation sur les services et les fonctions essentielles au Canada pendant la pandémie.
Et qui dit donc situation de crise, et d'opération? On parle encore une fois des infrastructures essentielles au Canada. Les infrastructures essentielles, pour ceux et celles qui n'ont pas idée, c'est quoi? Ça se trouve à être les 10 secteurs qui sont les fondements de notre société, je devrais dire, qui sont l'énergie et les services publics, les technologies de l'information et les communications, la finance, les services financiers, je devrais dire, la santé, l'alimentation, l'eau, le transport, la sécurité, les gouvernements, tous les paliers, et finalement le secteur manufacturier. Donc, quand on a une pandémie comme on vit présentement, il y a nécessairement une dégradation de toutes sortes de façons à chacun de ces secteurs-là. À titre d'exemple, si on prend exemple l'eau actuellement, est-ce que c'est un secteur qui est impacté grandement par la présente pandémie? La réponse à ça, c'est non, heureusement. Et pour l'instant, parce que là, on est au printemps, il y a eu beaucoup de pluie, il fond des neiges, les bassins sont pleins partout. Mais s'il advient une sécheresse extrême cet été, et les bassins, les affluents descendent beaucoup, bien là, ça va peut-être affecter, oups, la production d'électricité. Ça peut affecter la distribution en eau envers tout le monde dans la société. Donc, ce que j'essaie de dire par là, on ne peut pas gérer la crise à travers la nature, c'est pas ça. Mais c'est là que ça a, voyez-vous, des impacts downstream, pour faire de mots, donc en aval, en amont. Amont, c'est en haut, avant. Et donc, mais si on prend par exemple le transport, ben le transport ferroviaire, il est nullement affecté, tout va bien, les opérateurs d'un train, tout va bien pour eux autres. Par contre, le transport aérien, ben on a vu que là c'est un petit peu chaotique dans ce coin-là. Il y a eu une directive émise par le Transport Canada hier, vendredi, citant que tout le monde prochainement qui aura à prendre un avion devront porter le masque. Non médical pour minimiser la diffusion de postillons, disons ça comme ça, dans l'avion. Ça me fait rire beaucoup parce que ça aurait dû être mis en place déjà début février. Ça aurait aidé grandement là, parce que je regardais la carte encore à travers Flight Radar 24, qu'il y a beaucoup de vols internationaux, là, vraiment. Là. Dans le pays, là, c'est quasiment à rien. J'ai vu. C'est drôle, là, mais allez voir la carte, flightradar24.com, et vous allez voir qu'on voit tous les avions de privés, de gens, des Cessna, des choses comme ça. Donc, ils s'amusent dans le ciel aujourd'hui. Là, c'est fantastique. D'habitude, on ne les voit pas parce que tu as le trafic commercial qui est par-dessus. Mais je vois quand même beaucoup de déplacements internationaux, là, que ce soit en provenance ou en direction de la Chine, d'Europe. Ça marche encore. Et c'est ça que je comprends pas, Nick. Comment ça se fait qu'il y a des échanges? Mais anyway, ça,
c'est bien. Dans ce compte-là, est-ce que tu prends en compte des avions de cargo? Parce que à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de cargo que de passagers qui volent à l'heure actuelle.
Non, ça, je te parle, là, c'est British Airways. Eux autres font pas de cargo, là. American Airlines font pas de cargo, là.
Ils font pas comme Air Canada qui convertissent des avions passagers en avions cargo.
Je sais qu'il y a pas ce que j'ai vu. Je vais te laisser juger par toi-même. Je te mets le site dans le chat. Tu le commenteras. Et ce qui est dommage là-dedans, en tout cas, c'est que malgré que les frontières, on les dit fermées, mais il reste qu'il y a beaucoup de trafic aérien là, un peu partout. Mais, ceci dit.
Mais je reviens un peu sur le point que tu disais, tu sais, ce qui va arriver, c'est que les masques non médicaux ou les masques, tu sais, un peu comme les. Ce qu'on voit beaucoup dans les pays asiatiques où ils mettent des masques, pas pour se protéger eux-mêmes contre autrui, mais protéger autrui contre eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire que c'est d'éviter d'envoyer des positions à tout le monde et de contaminer l'ensemble de grands groupes. C'est sûr que les pays très, très abondants, comme on retrouve en Chine ou au Japon, entre autres, où sont d'une proximité très forte, ces mesures d'hygiène publique-là. De santé publique, ça fait longtemps qu'ils sont intégrés. J'ai fort l'impression que ça va devenir des habitudes beaucoup plus importantes dans l'Occident et en Amérique de mettre un masque maintenant quand on a minimalement pensé qu'on a des symptômes ou on est en face avec des gens avec un système immunitaire affaibli.
Bien d'accord avec toi. Ça va, comme tu dis, ça va être une hygiène de vie qui va devenir à ce moment-là une nouvelle norme, justement. Ce ne sera pas peut-être pas méchant non plus, mais. Ça va être drôle à découvrir. Mais autre que ça, si on prend le transport terrestre, lui, quand même, il devient très important de maintenir en place parce que on n'est même pas en période de pouvoir de produire quoi que ce soit de fruits et légumes. Donc, on est totalement dépendant de ce côté-là avec les importations. Et c'est là que si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien avec nos camionneurs, c'est là que ça va faire en sorte que les tablettes ne se rempliront pas autant qu'on l'espère dans les épiceries. Et sans parler épicerie, tous biens et services quand même qui voyagent un peu partout dans le pays. Donc, voyez-vous, ça, c'est un autre créneau qui est quand même très important qu'il soit maintenu. Si on le fractionne, c'est certain, mais c'est différent que si on prend exemple le médical, alors que c'est une évidence même, ce secteur médical-là recherche comme application et comme évidemment prévention, puis là, bien évidemment, servir la population, c'est lui qui est le numéro un en termes de plus important, je crois, dans tout ça. Et en même temps, les éléments gouvernementaux qui assurent de passer la bonne information et de coordonner les efforts un peu partout. Donc, vous voyez tout ça, comment c'est... Je fais juste quelques exemples comme ça, sans m'étendre. C'est vraiment beaucoup d'implications partout ensemble. Même chose avec le secteur financier que ça va relativement bien de ce côté-là. Mais dans un avenir assez rapproché, le secteur financier va être durement impacté. Parce que c'est beau injecter de l'argent comme ça, imprimer à partir des airs, mais à un moment donné, l'économie du pays va en manger toute une, puis ça va être un autre secteur à surveiller. Fait que c'est comme ça que les choses évoluent. Et le gouvernement, quand même, a laissé savoir, ben voici qu'est-ce qui se passe et voici comment est-ce qu'on anticipe que les gens devraient peut-être contribuer ou faire en sorte que ça aille mieux. Parce que, tantôt, je disais qu'il n'y a pas trop d'impact avec l'approvisionnement en eau. Mais il ne faut pas non plus que les employés des villes deviennent malades et qui empêchent justement d'aller à leur travail et de s'assurer que l'assainissement des eaux se fait correctement et s'il y a des bris mécaniques, qu'ils soient réparés rapidement. Parce que, je prends un exemple comme ça, s'il y a une station de pompage, que justement il y a un bris majeur et que parce que tout le monde est malade, pas capable d'aller réparer le bris, ben là, déjà directement, là, ça ne prendra pas quand. Ça va prendre quelques heures, c'est-à-dire que ça prendra pas des jours avant qu'il y ait un manque d'eau. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut voir à notre santé et s'assurer que tout le monde est correct et qu'on ne fait pas d'abus dans ce côté-là. Donc, les infrastructures essentielles, plus que jamais, sont mises à l'épreuve. Et une, Nick, on en parlait peut-être un peu tantôt, mais oui, dans deux points, on en parle. Les technologies d'information, présentement, c'est ça qui tient le moral de la population assez élevé. Permettant à ce moment-là aux gens de se divertir correctement. Mais je faisais des analogies la semaine passée avec ça. Je veux dire, si on enlève Netflix, Pornhub, puis l'Internet en général, la société s'écroule demain matin, là, c'est clair. Parce que les gens vont jouer avec les 10 doigts, puis ça va faire le tour de la question assez vite.
Oui, c'est sûr que l'oisivité est la mère de tous les vices. Fait que c'est sûr que si on n'occupe pas les gens avec des choses comme ça, ça va être problématique en ce sens-là. Où Netflix, c'est probablement une des mesures de paix sociale les plus efficaces à l'heure actuelle, justement pour stabiliser tous ces gens qui sont un peu trop de temps sur le disponible et peut-être pas assez de choses pour occuper leur esprit.
Oui, puis heureusement, là, les garages vont changer les pneus d'hiver, les pneus d'été, faire un petit peu d'entretien, tu sais. Fait que tout ça mis ensemble, que ça donne, je crois, des éléments que ça va pouvoir reprendre. Et c'est faux de croire que ça va reprendre la vie normale, le cours normal des choses. Il n'y en a plus. Ça, là, tu viens de le dire, Nick, avec ton exemple de masque. La vie telle qu'on l'a connue, là, faut faire une croix à partir de janvier 2020. Et là, on s'en va dans une autre façon de bâtir notre société, là. Faut juste avoir l'esprit ouvert, garder ça en tête pour qu'on puisse s'adapter.
Oui, mais effectivement, comme tu dis, l'adaptation, de ce que je constate autour de moi, c'est pas tous les gens qui sont aptes à s'adapter à cette nouvelle réalité-là, cette nouvelle façon de vivre-là. Moi, je le vis relativement assez bien. Je m'étais un peu équipé en amont, justement, de la crise qui s'en venait. Donc, mes habitudes ont commencé à changer, j'ai commencé à adapter. Je suis choyé, puis d'ailleurs, toi aussi, on peut travailler beaucoup en télétravail. Fait que moi, je ne m'attends pas à retourner sur un lieu de travail avant septembre facilement. Ou en tout cas, aussi, j'ai retourné sur un lieu de travail, ça va être de façon ad hoc et ou de façon très, très limitée par rapport à ce que je vis actuellement. Et il y a des bénéfices certains à ça. Je consomme beaucoup moins de resto. Je consomme mon auto, je ne roule plus avec mon auto, mais du tout. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de dépenses que je n'effectue plus. C'est sûr que dans un modèle d'économie, ça a un effet, puis on va s'en ressentir énormément. Tout change, tout est merveilleux pour les travailleurs en technologie, moins pour ceux qui travaillent dans le monde réel, mais ça va être de voir comment on va être capable de faire des choses avec les gens qui travaillent dans les usines, qui font quand même rouler notre économie, puis voir comment tout ça va se répercuter sur nos vies progressivement, puis voir comment on va pouvoir émerger de cette crise. Pas.
Mais je continue avec ce que tu dis dans le sens que j'aime ça identifier les secteurs comme ça parce que on va le voir tantôt, il y a deux histoires qui vont nous attirer l'attention sur le fait que il y en a des parfums à travers le monde là, qui ont juste ça à faire. Là. J'en parlais à TVA juste avant qu'on entre ensemble. Et tu as des places des pays dans le monde que le gouvernement n'est pas en arrière, il ne donne pas des millions à la population. Là. Fait que tout le monde travaille, chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une hausse vraiment là, de l'ordre de 4 fois plus de cybercrime en cours présentement que qu'est-ce que c'était à même date l'année passée. Là. Fait que ils sont prêts à aller tirer à plug sur l'électricité s'il faut. Ils sont prêts à. Parce que il y a une compagnie énergétique du Portugal là, qui s'est fait rentrer dedans en rançon judiciaire, puis la rançon, c'est 10,5 millions. Fait que, en temps de crise là-dedans, là, il n'y a pas grand monde qui peut se permettre autrement. Même affaire avec l'hôpital en Tchécoslovaquie. Eux autres, ça fait quelques attaques. Ils ont émis jeudi un avertissement, justement, de préventive d'attaque parce qu'ils ont détecté sur les différents moyens. Les différents moyens étant sur Internet. Donc, le renseignement détecté qu'il y avait des menaces directes envers le système hospitalier tchécoslovaque. Excuse-moi. République tchèque. Je pense que c'est la Tchécoslovaquie, mais ça n'existe plus. Fait que là, on est dans le contexte que c'est un service essentiel. Comme je vous disais tantôt, un créneau numéro un qui est affecté. Même les États-Unis, le secrétaire d'État a fait une déclaration disant « Hey, on ne supportera pas ça, on va aider » parce que la République tchèque s'aligne un peu plus sur le temps que ce qui était avant sur le parc de Varsovie. Et de cette façon-là, ben c'est tout simplement le contraire à ce qu'on a entendu là, le mois dernier, alors qu'il y a une communauté de hackers qui se déclarait sympathique à ne pas attaquer les hôpitaux et les services de santé, mais que encore là, le crime organisé n'a rien à cirer de cette sympathie-là et ils vont s'en prendre allègrement puis ils vont lancer du rançon judiciaire. Fait que c'est ça qui est le cas présentement de la compagnie énergétique au Portugal. En Azerbaïdjan, c'est la même chose. Le gouvernement et les compagnies de distribution électrique ont été pris avec du rançon judiciaire. Donc, quand il y a des infrastructures essentielles comme ça dans un pays qui sont directement affectées, en plus de la charge et du stress de la crise en cours, ça va pas bien. Ça dégrade davantage le tissu social que personne ne veut que ça arrive.
Ouais, effectivement, ces gens-là ont beaucoup plus de temps disponible qu'on avait avant. Donc, ça fait ça. Puis, ils ont encore des moyens financiers inférieurs à ce qu'on peut. Nous, on est chanceux.
Exact.
Au sens social où on a des paliers de gouvernement qui viennent appuyer et nous aider. En Occident, en général, c'est comme ça. C'est pas tout comme ça partout dans le monde. Donc, effectivement, ces gens-là, ben, sont plus affamés, plus désespérés. Et donc, du moment que tu es capable d'avoir ça, puis là, on est quand même une capacité de transfert monétaire avec les différents éléments technologiques.
C'est ça.
Oui, effectivement. Moi, j'ai pas été, je suis pas sur le front line, ça, je l'ai pas vu effectivement d'augmentation de choses significatives de cette nature-là encore. Il faudrait que je m'informe dans les prochains jours. C'est très, très intéressant de voir s'il y a eu des changements majeurs. Mais oui, ça serait. De toute façon, ça me rappelle quand les adolescents revenaient d'école les années 90, ben, il y avait un spike automatique juste entre genre 3h et 5h, entre le retour de l'école et le souper, il y avait un spike d'attaque sur les réseaux de Vidéotron à l'époque, à cause du modem câble était un peu plus un accès un peu plus libéral entre les différents abonnés du modem câble. Donc, il y avait une hausse automatique à ce moment-là. Fait que là, ben, on se retrouve avec le même concept avec des gens avec peu de moyens, avec des moyens financiers des fois un peu en désespoir, qui vont agir pour justement se sortir de situation, en pensant qu'ils vont se sortir de situation en essayant de voler de l'argent à des pays qui considèrent étant plus riches. Et justement, passons à la nouvelle suivante, qui au niveau du FBI a émis un avertissement comme quoi les scientifiques qui font des recherches spécifiquement sur le coronavirus sont maintenant ciblés par le cyberespionnage.
Et on en a parlé là-dessus, Nick, dans le dernier podcast, puis ça fait suite à ce que j'apporte tantôt comme étant le secteur critique le plus convoité, pour pas dire le plus intéressé, donc la santé. Et j'en ai parlé même déjà en février avec un intervenant qui était justement sur son interview à télévision, qui confirmait justement que dans les centres de recherche, les chaires de recherche, les centres de recherche, qu'ils soient universitaires ou privés, ben, ils se font solliciter par des campagnes de pourriel et tentent les agents extérieurs, c'est des agents étatiques principalement, qui s'intéressent à aller chercher les recherches fondamentales comme ça pour deux raisons principales. La première, avoir l'avantage d'aller chercher l'information puis qu'ils puissent l'appliquer chez eux. Deux, si c'est un brevet, ils sont capables à ce moment-là d'aller prendre l'information de la propriété intellectuelle et enregistrer le brevet. Ça, c'est la force de la Chine là, que dans les 5 dernières années, là, ils ont été les champions d'enregistrement de brevets. Et ça peut faire mal vraiment à un secteur économique. Fait que donc, ils mettent encore une fois, c'est un avertissement que les autorités laissent savoir aux scientifiques et surtout aux compagnies de fabrication, des pharmaceutiques, de redoubler d'efforts, redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans le panneau, surtout parce que ça vient principalement par courrier électronique. C'est le vecteur numéro un d'entrée dans les organisations. La porte dans la main est toujours bien fermée, le firewall, mais quand ça passe par un moyen légitime, donc un courrier électronique, je veux dire, sûrement toi aussi, Nick, de ton côté, mais j'en ai encore qui rentrent là, à grande porte, des CV, des chiffriers Excel, de toutes sortes d'affaires, qui sont toutes piégées l'un et l'autre. C'est là que les gens, faut pas cliquer ça encore une fois n'importe quoi. Et si vous voyez quelque chose qui est suspect, ben rapportez-le au centre antifraude, rapportez-le à votre service de police, ça va toujours aider. Et là, je dévie pas de qu'est-ce qu'on parle, parce que si vous avez des gens qui sont proches de vous dans votre environnement, qui travaillent avec de la recherche médicale ou qui travaillent dans un centre hospitalier, ben il est pas impossible que vous deveniez le maillon faible de la chaîne de sécurité. Et à travers vous, qui avez contact avec quelqu'un dans le domaine, ça pourrait là contrevenir à la sécurité de premier plan et à ce moment-là, d'une façon indirecte, infecter le système. Il y en a qui vont dire, ben, je vais chercher ça loin, mais pensons deux minutes là, comme les malfaisants, puis les malfaisants vont s'en prendre toujours au maillon faible de cette façon-là.
Ouais, leurs objectifs sont toujours les mêmes, puis c'est pas parce qu'on est en pandémie que leurs objectifs financiers et de crimes organisés ont diminué plus ou moins maintenant, même à certaines. Mouvement d'argent majeur que les gouvernements font, donc qui injectent dans les systèmes de santé. Et ces malveillants-là ben, vont s'orienter vers où se situe l'argent. En fait, l'argent se dirige de ce côté-là. Ils vont aller drainer cet argent-là comme ils peuvent, avec aucun scrupule non plus. Ils sont vraiment se foutent. Là. Il y avait Damien qui avait parlé de Maze il y a quelques podcasts de ça. Il disait oui, on n'attaque pas la santé. Puis finalement, de l'autre côté, il a planté un couteau dans le dos puis ils sont allés voler de l'argent dans le système de santé. Fait. C'est pas, sont pas mieux, c'est leur business, fait qu'ils maintiennent leur business un peu sans cœur, donc c'est un peu triste. Puis il faut être vigilant, comme tu mentionnes, sur le fait que même si on n'est pas directement mis dans le système, on peut être un vecteur pour affecter quelqu'un dans le système. Les courriels, ça, je l'ai vu, puis J'ai vécu principalement à l'automne passé avec Emotet, entre autres, mais ça ne change pas. C'est juste une réutilisation des mêmes mécaniques. Là. C'est business as usual, ils continuent leurs affaires. Là. Bref. Fait qu'on peut, va passer à une nouvelle. Il y a des mises à jour de correctifs qui. Des mises à jour de correctifs. Des correctifs de sécurité qui sont déployés pour le mois.
Oui, c'était ce fameux Patch Tuesday, donc le mardi des correctifs cette semaine. Et ce qui était surprenant, c'est qu'il y a quand même 3 vulnérabilités des 0D qui sont présentement en exploitation, qui ont été couverts par ces patchs-là. On en représente une centaine, vraiment, là, Manic. C'était une grosse affaire, une grosse culture. Puis c'est pour ça que je voulais attirer l'attention. Je vais finir juste avec l'énumération, puis j'ai une pensée à formuler là-dessus. Il y a 397 vulnérabilités chez Oracle, de toutes sortes de produits, qui a été aussi patché par ce cycle-là. Et chez Adobe aussi, beaucoup de produits ont été impactés, ont été patchés. En temps de crise, en temps de pandémie, c'est beau, il y en a qui vont dire, ben, on patche nos systèmes, là, du coup, on continue. Le danger est tout autre. Le danger est à la disponibilité des systèmes. Comme Cisco, ils ont délibéré quasiment 3 à 4 semaines de temps à se gratter la tête, à dire, on diffuse-tu ou on diffuse-tu pas? Les correctifs envers le call manager et les téléphones IP Cisco qui sont en utilisation dans beaucoup d'organisations de la santé gouvernementale. Et finalement, ils ont dit oui, de la merde, on fait en sorte qu'on déploie les correctifs et mardi dernier, donc ces correctifs-là, ils ont apparu sur le marché. Parce que ça remet tout en lumière la mécanique de mise à jour dans les entreprises. Et là, dans un temps de crise et d'opération, comme je décrivais, tu peux pas juste faire ça le soir, juste de même, puis sans rien valider. Là, faut que tu redoubles d'efforts parce que tu n'as pas droit à l'erreur. Et pas droit à l'erreur, ça veut dire que là, si tu dis que tu vas mettre en place un correctif qui vient corriger un problème en principe, n'en développe pas un deuxième ou un troisième. Donc, la charge est quand même plus importante présentement sur l'équipe des TI pour faire ces vérifications, pour tester vraiment les patchs avant de les déployer, plus que jamais, parce que tu ne veux pas te retrouver que le docteur, quand il rentre à 6 heures le matin pour qu'il commence sa journée de recherche ou de diagnostic, il attend après le TI parce qu'il a fucké up, excusez le terme, j'ai pas le droit de dire ça, non? OK. Et après ça, là, tout le monde court après, là, tout le monde court après le gars des TI, puis là, il va se faire lyncher sur la place publique parce qu'il n'est pas capable de redonner le service, genre d'affaires. Fait que je l'ai vécu comme ça plusieurs fois, puis c'est vraiment un stress supplémentaire parce que ça veut dire là, puis je parlais des patchs Microsoft, là, qu'il y a 3 vulnérabilités qui sont présentement exploitées, ça c'est quand même plus tannant, et c'est là qu'il faut vraiment agir rapidement, mais agir intelligemment. Et donc, le fardeau revient justement aux équipes de tester et après ça, de déployer. Tout ça en gardant les systèmes les plus opérationnels possibles. Et on sait très bien que un système sur 24 heures, il faut se dégager peut-être un petit peu de temps, mais il faut garantir pareil la disponibilité de ces machines-là. Toujours dans l'espace public, je parle des serveurs web et le courrier électronique, autant qu'à l'interne, lorsqu'on a à faire ce traitement et appliquer ces correctifs-là à l'interne. Il faut évaluer aussi à travers, j'imagine que les organisations sérieuses, ils ont un RFC, un Request for Change, un processus donc documenté et avec des bonnes personnes qui font partie du comité d'approbation, dont le spécialiste en cybersécurité, le CIO, CISO, l'ISSO, qui fait partie du cycle de décision, qui est capable d'évaluer les pour et les contre, faire vraiment une évaluation de menaces et de risques, et surtout une évaluation d'impact sur les activités, un BIA, afin de définir ce que la patch améliore ou c'est un nice to have. Si c'est un nice to have, mêlé en stockage, on la fera vraiment plus tard. Mais si c'est une qui impacte les opérations, que s'il y a compromission d'informations, ça va faire en sorte que ça va faire dérailler les activités quotidiennes, ben je crois que celle-là est prioritaire. Et surtout, comme je disais tantôt, ceux qui sont en train d'être exploités, les vulnérabilités sont exploitées. Donc, c'est tout ce processus-là de pensée qui doit être mis en place et rapidement concerté. En parlant avec Nick tantôt, il y en a dans certaines instances du gouvernement qu'ils se pensent dans la normalité de fonctionner comme d'habitude. Désolé, la normalité n'existe plus. Vous êtes en période d'évaluation ou de probation. Vous êtes en opération. Et c'est là, Nick, que je me suis permis cette semaine de faire des petits commentaires sur des médias sociaux en disant « Ah, l'armée va venir aider dans les CLSC, tout ça. » Moi, j'ai dit « L'armée devrait être des coachs pour venir aider les gestionnaires à tous les niveaux des paliers d'organisation, comme exemple au gouvernement du Québec. » Je l'ai même envoyé à un député très bien placé, hautement placé. J'ai dit, prenez le, si vous voulez avoir des commentaires de même, allez voir le PDG de la Société des Traversiers, c'est l'ancien brigadier général des Forces canadiennes qui était commandant du secteur du Québec. Il en sait quelque chose sur comment gérer en temps d'opération, en temps de crise. Donc, c'est des éléments comme ça que ça serait une belle occasion de faire du coaching opérationnel pour ces gens-là, qui pourraient à ce moment-là faire un effet multiplicateur et ça l'aille beaucoup mieux. Au lieu que tout le monde, encore une fois, travaille en chasse gardée dans le petit royaume, puis que là, ils ne parlent pas à personne, puis que là, ils espèrent que ça se règle tout seul. Est-ce que je l'ai dérapé?
Non, il n'y a aucun problème. Mais pour le leadership en gestion de crise, je suis entièrement d'accord avec toi parce qu'on est dans un univers où il y a finalement peu de gens, du moins d'un point de vue civil, qui ont des capacités en gestion d'incidents ou en gestion de crise parce que ça prend des habiletés très particulières qu'on n'a jamais exprimées. Ça peut devenir un problème. Puis c'est dans les organisations, ça a des effets. Pour ce que je peux constater dans mon environnement immédiat, j'ai la chance d'être dans un environnement avec des leaders qui sont capables de justement prendre des décisions éclairées en temps de crise et d'agir en conséquence et en prenant pour le fait que la situation a changé et d'agir comme la situation a changé, pas d'agir comme c'était avant. Puis ils se sont adaptés à cette situation-là, puis c'est fantastique, puis j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Puis pour revenir plus au fondamental de ta nouvelle que tu disais sur les correctifs, ceux-ci, j'ai été confronté moi-même à des décisions de cette nature-là. À quel point, quel correctif que tu retiens, que tu ne mets pas en place pour limiter le risque de disponibilité au système, autant au niveau des postes de travail que des serveurs, et ceux que tu forces quand même à risque de mettre indisponible les systèmes, parce que si sont pas corrigés, peuvent mener à des problèmes de sécurité beaucoup plus importants que la perte de disponibilité temporaire de l'application du correctif. Encore là, on vit dans un univers de virtualisation, fait que le retour arrière est beaucoup plus facile qu'il l'a déjà été. Je me rappelle au début de ma carrière où quand je crachais un serveur parce que j'avais raté ma mise à jour, c'était le retour des backups qu'il fallait faire revenir. C'était un long parce que c'est pas rapide de faire revenir un backup. Contrairement à maintenant, on fait juste faire un snapshot, ce qui prend quelques minutes, tu fais ta correctif, ça n'a pas marché, retour arrière, pouf, il ne s'est jamais rien passé, puis il n'y a personne qui a vu quelque chose. C'est un peu, il y a une énorme amélioration au niveau opérationnel maintenant, mais au niveau des serveurs, puis au niveau des postes de travail, ben là, c'est un risque dans le cas où on a eu des décisions à prendre. Et les correctifs qui étaient les plus critiques au sens d'infection virale par courriel avec des pièces attachées malicieuses, donc Office, Adobe étant les deux plus utilisés. Eux, on les a obligés quand même s'il y avait un risque de perte de disponibilité temporaire, on était prêt à prendre le risque, puisque la conséquence d'une infection virale de cette nature-là dans l'organisation, c'est pas juste un ou deux postes qui auraient cessé de fonctionner, c'est probablement l'ensemble des postes de l'organisation qui se sont trouvés être infectés. Donc, la mesure de l'analyse de risque, tu parlais un peu de continuité des affaires aussi, est un élément très, très important à tenir en compte. Et ceux qui ne l'ont pas fait, c'est triste parce que là, vous êtes pris avec rien pour évaluer la nature de votre risque. Vous êtes contraint à évaluer ça avec le vent au pouce et de déterminer qu'est-ce que vous devez faire. Fait que c'est un peu un rappel un peu logistique qui est. c'est un rappel un peu sévère que si on n'est pas préparé à une crise comme ça, mais c'est là qu'on mange le coup en pleine face, puis c'est là qu'on doit prendre des décisions moins bien réfléchies parce que c'est là où devient tout le fait de coaching, puis pour refaire la boucle avec ce que tu as dit, tout le coaching qu'on peut obtenir des forces armées est justement là parce que eux, toute leur force, c'est qu'il y a une préparation en amont qui se fait. Mais quand ils arrivent dans un contexte de crise, ils n'improvisent pas, puis ils n'essaient pas d'avoir la meilleure chose, ils sont prêts parce qu'ils l'ont déjà, déjà testé.
Bien, surtout vécu en différentes situations. Et c'est ça qui en fait la force et l'attraction, je te dis, de ces qualificatifs, parce que le militaire, lorsqu'il est entraîné à réagir pour toutes sortes de situations, puis ça, c'est pratiqué dans diverses occasions, de n'importe où, que ce soit en temps froid, en temps chaud, en temps humide, et j'en passe. Mais c'est là que ça devient justement la façon de travailler que, oups, il y a une nouvelle situation qui se dessine. J'oublie qu'est-ce que j'ai appris de comment le faire avant. Je l'adapte avec qu'est-ce qui se présente devant moi dans l'immédiat. Et là, oups, on fait en sorte qu'on fait tout notre pouvoir et notre capacité pour être capable d'atteindre l'objectif, donc la mission. Pour ceux que ça pourrait intéresser, que j'ai pas nommé tantôt, c'est le brigadier général Lafaux à la retraite, qui dans son, ce que je me souvenais pas, c'est que dans le comité aussi de le conseil d'administration de la Société des transports des traversiers, il y a M. Pierre-Paul Farran, qui est aussi un ancien militaire, un ancien policier militaire même, qui était à la vice-présidence de l'aéroport de Montréal, qui, encore une fois, c'est un autre qui a amené son expérience d'un autre aspect, d'un autre environnement, qui a aidé justement à améliorer beaucoup de processus à l'aéroport de Montréal et a été à distance témoin de ces changements-là. Fait que, encore là, c'est donc des. Faut prendre toutes les ressources vraiment là, qui sont autour de nous pour être capable d'arrêter ce qui était mal fait avant pour le mettre justement productif.
Ouais, ben, ce n'est pas le plus fondamental là-dedans, c'est le partage de l'information, le partage entre les organisations pour être capable de s'aider et d'aller plus loin. Si on n'est plus dans un moment, dans un modèle de compétition, dans un modèle de coopération, parce que c'est celle-là qui va aider à faire avancer les choses dans ce contexte spécifique-là. Donc, passons à la nouvelle suivante, parce que je pense qu'on a comme on l'a pas mal battu cette nouvelle-là. Ligne 6. On demande à ces utilisateurs de resetter les mots de passe.
Oui, bien là, c'est encore dans un contexte que tout le monde, la majorité des gens travaillent à partir de chez eux. Il y a beaucoup de gens nécessairement qui auraient accès, pas qui auraient accès, mais qui ont chez eux des routeurs Link 6 pour être capable donc d'avoir la connectivité aux Internet. Et était émis par le fournisseur, donc la compagnie, de changer les mots de passe parce qu'il y avait donc une vulnérabilité qui s'est dessinée. Et par la fonction Smart Wi-Fi des routeurs Linksys. Et à ce moment-là, c'est une vulnérabilité que c'est important d'aller corriger pour empêcher que les gens puissent avoir accès de par l'espace public à ce routeur-là et d'en faire l'exploitation. Et c'est bon, ça vient à ce moment-là une bonne occasion d'aller faire justement l'évaluation du dit routeur firewall, est-ce qu'il est le bon appareil pour faire le travail que j'ai chez nous? Ça fait partie du cycle de cyberhygiène, ça, là. Parce que j'en parlais justement, c'était juste durant l'heure du dîner avec un ami. Il demandait qu'est-ce que t'en penses, mon routeur? Je l'ai dit encore, je pense que non. Le modèle qu'il y avait il y a 11 ans. OK. Électriquement parlant, il fonctionne très bien. Il est capable juste de générer 802.11G en termes de capacité Wi-Fi. Mais il n'est plus correctif, ça fait 11 ans. Donc, moi, je le considère vulnérable. Il n'est plus supporté, c'est clair. Mais je disais, il dit, sais-tu quoi, là? Fais-toi un cadeau. Va t'en chercher un, là. Pas plus cher que 150$. T'es pas obligé d'aller chercher, là, ceux qui ressemblent à des crabes, là, qui sont capables de faire du 802.11AC, ou même les nouveaux, qui est la nouvelle génération Wi-Fi 6, qui est 802.11AX, pour être capable, donc, d'aller chercher la prochaine technologie, mais encore là, avec quel appareil vous allez l'utiliser? Là, il y a 5 types de manufacturation qui fait du 802.11AC AX présentement, donc ça ne vaut pas la peine. Mais allez en chercher un qui fait du AC, si ce n'est pas du 802.11N, vous allez mauditement avantager et ça va faire en sorte que vous allez être encore en avant-plan, donc profiter de la technologie de vos appareils et de l'Internet. Parce que j'en connais qui ont des lignes Internet quand même très... très alléchante, du 300 mégabits, du gigabit même chez eux, là, sont fiers de dire ça. Mais quand tu regardes le routeur qui est en avant, là, c'est ça qui ralentit de l'expérience d'accès Internet. Ça en est décevant. Donc, pour revenir à Link 6, ça va être Link 6, ça va être Belkin, ça va être D-Link, n'importe quel fabricant, assurez-vous de regarder de souvent si votre routeur a besoin d'une mise à jour. Et je le sais, je me fais tannant de parler de ça parce que ça fait partie d'un cycle de cyberhygiène, mais c'est là que plus qu'on a de cossins informatisés dans nos maisons, il faut en faire l'entretien de cette façon-là parce que juste le brancher et l'oublier, ça ne marche pas de même. Et si vous faites ça, ben, vous vous exposez vous-même et vous allez être pris un moment donné à ramasser les pots cassés plus que d'en profiter.
Effectivement, puis de toute façon, Link 6, ben ça c'est un premier cas qu'on voit actuellement, mais celui-ci ne sera pas unique, comme tu le mentionnes. Ça, si on parle spécifiquement des routeurs qui sont exposés, c'est autant au niveau Wi-Fi qui sont exposés ou qui sont exposés parce qu'ils font face à Internet. Dans les deux cas, le danger est sensiblement le même, c'est juste que ce n'est pas le même site attaquant qui va arriver. Puis tout le volet IoT dans lequel on a branché toutes les affaires dans nos maisons, ben là, on est dans un moment où c'est encore plus important de le mettre à jour que ça l'était avant, parce que là, justement, on se retrouve avec une gang de gens ont trop de temps disponible, qui veulent tester notre sécurité. Donc, c'est un point important. Puis, c'est un rappel aussi aux entreprises que tous ces employés qui travaillent de la maison sur des réseaux domestiques qui ont une sécurité largement inférieure que qu'est-ce qu'on peut retrouver dans les réseaux d'entreprise. Quand tous ces ordinateurs portables-là se retrouvent de façon là, massive sur des réseaux domestiques, généralement non sécurisés ou mal sécurisés, j'ose imaginer qu'il doit y avoir au moins 25 à 50% de ces réseaux-là qui sont infectés de façon active à ce moment-ci, ou même peut-être même avant la crise. Donc, d'exposer nos machines corporatives à des environnements mal protégés comme ça, ça augmente le risque corporatif. Puis, parce que je suis au courant un peu, puis ça discute largement. Dans le cas de certains déploiements d'outils de visioconférence et de collaboration en ligne, les organisations favorisent l'usage du split tunneling, ce qui multiplie encore plus le risque des réseaux corporatifs à l'exposition à un réseau domestique qui est mal sécurisé. Donc, c'est des réflexions qui sont très importantes de le faire de façon très sérieuse, de ne pas y aller vite parce que ça presse et on doit faire les choses parce que la crise est là. C'est la pire chose à faire parce qu'on va arriver à compromettre nos réseaux d'entreprise et d'avoir des problèmes beaucoup plus importants à gérer. Puis, je sais que Patrick a promis qu'on aurait un épisode sur la gestion d'incidents dans un contexte de pandémie et de télétravail. On va le faire parce que faire de la gestion de crise et d'incidents informatiques dans un contexte de pandémie où il n'y a personne dans les bureaux, c'est quelque chose d'un peu plus funky. Et quand on est tout le monde au bureau, on peut agir, on peut faire des choses. Ça va être des choses à réfléchir. Très intéressant d'adresser ce genre de choses-là, d'en discuter. J'ai une petite expérience là-dedans. Je pense que Patrick a une expérience beaucoup plus intéressante. Probablement que Steve doit avoir une expérience fantastique de ce côté-là dans des contextes non orthodoxes, disons. J'aime ça, je l'ai fait rire.
Bon, orthodoxe, pareil aussi. Là. Il y a de l'expérience qui sera à partager, c'est clair. Hein. Mais ça va être une belle émission, ça, c'est une bonne idée.
Ça va être super intéressant parce que c'est des sujets auxquels on va être confronté nécessairement comme professionnel en sécurité. Basculant à l'autre nouvelle, ben, dans plusieurs nouvelles dans la cause. Dans
tu m'arrêtes, hein? Quand t'es tanné, tu m'arrêtes là, parce que sinon, non, on va jusqu'à demain matin.
Il y a des sujets super intéressants, puis je ne m'étonnerai jamais d'écouter ça. C'est des fois, il faut juste, c'est pour nos auditeurs que j'ai un petit peu. Bref, j'ai quand même ramassé trois de tes nouvelles au niveau de la surveillance des populations, comment tout le coronavirus amène certains États à changer leurs habitudes, comment tout change autour de nous en termes de surveillance de ce qu'on fait. Tu n'abordes pas le volet Google-Apple, mais je vais te laisser rouler tes nouvelles, puis j'aborderai le volet Google-Apple qui ont développé quelque chose aussi.
Oui, certainement, parce que c'est vraiment particulier qu'est-ce qu'ils veulent faire comme approche. Mais j'y vais avec l'idée conceptuelle générale où que là, on est rendu à une trentaine de pays qui ont développé une capacité, qui sont en train de développer la capacité pour faire de la surveillance de la population. Et ça, on parle pas juste de la Russie, de la Chine, de l'Inde, on parle des États-Unis, du Brésil, de l'Australie, de l'Afrique du Sud, toutes sortes de places comme ça sur la planète. Que normalement, ils ont à cœur la population, que ça se passe bien, mais en même temps, il y en a d'autres que c'est vraiment exagéré, puis ils vont en faire davantage, comme exemple à Dubaï ou en Équateur. Vraiment, là, c'est la surveillance de 24/7 de la population qui veulent étendre de plus que qu'est-ce qui se passe d'habitude. Et c'est là qu'on a, comme société, à avoir le débat avant que ça se manifeste, à comprendre, puis on a parlé, je crois, les dernières fois, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on permet dans notre société? Est-ce qu'on permet d'être surveillé 24/7 ou bien on permet aux autorités d'utiliser tous les moyens nécessaires pour être en mesure de contenir la pandémie le plus rapidement possible? Et ce, allant jusqu'à documenter et suivre les déplacements de masse. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, est-ce qu'on suit juste ceux qui sont infectés ou de façon arbitraire, on suit tout le monde? Parce que moi, je trouverais que ce serait légitime. Ah, t'es infecté, on tag, t'as un petit bracelet GPS, on sait où tu te déplaces. On sait où est-ce qu'il y a potentiellement quelqu'un qui peut affecter tout le monde. Et la personne qui est asymptomatique, elle, là, on sait tout ce qu'elle est. Ah, elle n'a pas été testée, puis elle ne sera pas testée. Ben, regardons ça. Fait que là, on arrive avec l'autre option. Donc, on surveille tout le monde, mais là, tu surveilles quoi? Tu surveilles juste les déplacements, tu surveilles juste s'ils font du rassemblement de masse. Là, tu le fais comment? Avec le cellulaire? Ben, On peut laisser notre cellulaire à la maison puis ils ne sauront pas où qu'on est. Hein? Ça, c'est pas pire. Ou bien on met un bracelet obligatoire à tout le monde. Oups, là, ça commence à enfreindre les droits et libertés parce que fondamentalement, le pays, les droits et libertés ne sont pas suspendus, à ce que je sache. N'étant pas suspendus, ça veut dire qu'on a encore le droit de liberté. Cependant, il y en a qui ont commencé à essayer de tester le système. Aux États-Unis, ça fait déjà l'objet de quasiment des émeutes parce qu'ils sont vraiment pas contents. Ça veut dire que on veut que ça soit la protection, justement, collective contre cette menace pandémique, mais en même temps, de ne pas restreindre les gens dans les allées et venues. C'est pour ça qu'on est capable encore d'aller à l'épicerie, d'aller marcher dehors, mais tu sais, encore là, avec une certaine limite. C'est ça que les gouvernements, surtout sur le gouvernement du Québec, nous a mis devant pour être capable, justement, de prendre conscience que on est encore libre, mais pour des besoins sanitaires, il faut qu'on soit restreint. Tout pour les bonnes vertus, mais cependant, s'il faut qu'ils aillent documenter au-delà de ce qu'ils font à ce moment-ci, c'est là qu'il va falloir qu'on mette un stop à ça. Là, ça parle, les parlementaires doivent venir en chambre en début de semaine prochaine, et on parle de ça en début de semaine prochaine par le 20 avril. C'est là qu'ils vont-tu débattre d'idées comme ça? Parce qu'il y en a que vraiment ailleurs au Canada qui ont émis l'idée. Faut mettre de la surveillance davantage, parce que surtout garder les chiffres, là, c'est plate à dire, mais au Québec, on est encore la province numéro un. On est société distincte, n'est-ce pas? Mais c'est là que, comment est-ce qu'on arrive à expliquer qu'on est distinctement plus affecté que le reste du monde? Qu'en Ontario, ils sont deux fois plus quasiment que nous autres. C'est bizarre, ça, là. Fait que c'est-tu encore une fois une question de documentation? Comment est-ce que la comptabilisation des cas sont faits? Qu'ils ne font pas autant en Ontario qu'ici. Puis ça, Monsieur Ford, Premier ministre d'Ontario l'a dit à plusieurs reprises, ils ne testent pas assez. Et je suis de cet avis qu'ils n'ont pas nécessairement l'information nécessaire sur qui a été affecté ou pas. Ça va aider beaucoup à refaire les statistiques. Puis on l'a vu au cours de la dernière semaine qu'il y a beaucoup de chiffres qui ont changé radicalement parce que les méthodes comptables ont changé. Fait que c'est là que je crois pas à ce moment-ci que ça soit la solution de dire « Hey, on met la surveillance là ». Uniformisé partout et on va tout le savoir. Cependant, il y a des bonnes mesures de prévention encore là pour donner le ton et la capacité de prendre des décisions en conséquence de ces rassemblements de masse-là que les grands fabricants vont apporter bientôt avec le système d'exploitation, dont Google et Apple Inc.
Oui, tout à fait. Les autres ont pensé une approche où ils ne géolocalisent pas les gens, comme ce qu'on peut voir dans certains pays. Vous verrez dans les show notes, on parle beaucoup où l'érosion de la vie privée se fait. Puis c'est tout l'enjeu là-dedans parce qu'on a un souci de vie privée et autant un souci de santé publique qui sont confrontés dans ce cas-ci. Moi, je suis d'avis, puis je répète régulièrement, qu'on devrait avoir un rôle de commissaire à la vie privée beaucoup plus important, puis qui viennent justement mordre les mollets des compagnies qui ne respectent pas les engagements qu'ils prennent ou qui modifient à tout bout de champ les règles d'utilisation de l'information. Fait que ça, c'est un. Dans un contexte comme ça, c'est une belle occasion de réfléchir à ça en tant que société. Et puis ça, je me rallie aussi en même temps très, très proche de ce que Steve va dire, au sens où ces outils-là sont nécessaires aux forces de l'ordre, ces outils-là sont nécessaires dans ce cas-ci, dans la force de santé publique. Là. Je parle de force de l'ordre dans le cas de Clearview AI qui, justement, de la reconnaissance faciale. Malheureusement, cette histoire-là, ça l'a dérapé parce qu'ils ont perdu le contrôle de ce que c'était. Puis ça, c'est malheureux parce que c'est un outil qui sert au bien collectif, mais qui, malheureusement, va dévier vers d'autres choses. Bref, dans ce cas-ci, on va se limiter dans le COVID où Apple et Google, ce qu'ils ont développé, puis là, vous irez lire l'ensemble, puis vous pouvez critiquer parce que c'est pas une approche qui est nécessairement parfaite. Mais en termes de protection de la vie privée, c'est probablement un des éléments qui se rapproche plus d'un élément où on limite l'exposition des individus à une surveillance de masse. Parce que ce qui est surveillé, c'est pas la géoposition, mais c'est les contacts qu'on a. Fait qu'on fait juste surveiller avec les cellulaires qu'on contacte autour de nous. Et sur cette base-là, puis donc on n'est pas géolocalisé, c'est vraiment juste un contact à proximité d'un cellulaire, disons à moins de 2 mètres d'un cellulaire X, à ce moment-là, on est comme tagué parce que toute la force du signal Bluetooth est utilisée pour évaluer la distance du dit autre appareil qui est là. Et à ce moment-là, on va arriver à être capable de, sur cette base-là, fait que donc si on est déclaré malade, on a un problème, ils vont juste piger dans cette base de données-là qui est non nominalisé, fait qu'on n'est pas capable de savoir c'est qui est en arrière. Par contre, on va être capable avec des structure crypto. Puis là, ben, je vais laisser les champions en crypto chialer ou défaire le principe qui est fait. Moi, je ne l'ai pas analysé suffisamment, puis je ne suis pas assez ferré dans ce genre de choses-là pour être capable de dire que c'est bon ou c'est pas bon, le chemin compris. Mais dès lors, dès que moi, je suis déclaré malade, et tous les cellulaires que j'ai vus dans mon entourage vont être projetés, vont être informés du fait que je l'étais, donc potentiellement. Fait qu'on n'est pas une société centralisée qui vérifie ce genre de choses-là, puis on est encore un peu dans une notion de bonne volonté. De sens que moi, si je peux dire, je peux ne jamais déclarer que je suis malade, ce qui est irresponsable en tant que citoyen. Puis c'est aussi irresponsable, on le voit actuellement là, dans des cas où il y a des gens qui revenaient, par exemple, les snowbirds qui revenaient de la Floride, puis de façon inconsciente allaient dans les magasins quand même si potentiellement il y avait un très haut niveau de probabilité qu'ils étaient infectés. Fait que ce degré-là, puis disaient à tout le monde qu'ils étaient pas, qu'ils ont comme menti sur leurs conditions. Fait que ça, en tant que citoyen, c'est mal parce que c'est pas notre caprice personnel crée un dommage social important. Et c'est là où on va devoir, en tant que société occidentale, changer notre rapport à autrui parce que on n'est plus seul. La conséquence que moi, je sois malade et que je me promène dans un espace public a des conséquences sur des dizaines et des centaines et potentiellement des milliers de personnes sur l'effet de propagation que si j'infecte, si on fait le héros du coronavirus actuel, parce que là, il semblerait qu'il est inférieur à la réalité, si on dit que je suis capable d'infecter 3 personnes, ces 3 personnes-là vont infecter 3 autres personnes et ça se multiplie, ce qui fait que ma propre négligence de citoyen va avoir un effet là, domino, puis tout dépendant dans quel niveau je l'ai fait, peut avoir l'effet d'un feu de paille et de raser, pas raser, mais en termes de décès, parce que le taux de décès n'est pas si élevé que ça encore, mais peu d'infection massive juste parce que j'ai été négligent sur la façon que j'ai agi. Il y a des plus des moins, il y a beaucoup de débats qu'on va devoir avoir. J'ose espérer, puis comme Steve le disait, que nos politiciens vont poser les vraies questions, pas des questions intéressées en tant que politiciens, mais des questions intéressées en tant que citoyens qui veulent protéger leur situation, puis protéger le collectif dans lequel on vit, à quel point on va. Puis prenez le temps de lire les différents articles que Steve a mis, puis j'ai mis les articles au niveau de Apple, Google. Critiquer ce qui est fait, c'est important, parce qu'on doit trouver où est la bonne ligne entre les deux. Puis c'est important qu'en tant que citoyen, on prenne ce moment-là et qu'on fasse valoir notre voix. Puis Steve le dit souvent, parlez à votre député, c'est votre représentant. Faites valoir vos inquiétudes face à ce genre de choses-là. Faites valoir comment vous voulez qu'on soit protégé, mais comment vous voulez également protéger votre vie privée, qu'on ne sache pas que vous êtes sorti le samedi matin, mais qu'on a juste besoin de savoir qui vous avez, pas qui, mais quel téléphone cellulaire qui sont dénominés a été mis en contact avec vous, s'il y a un lieu de voir comme ça, puis critiquer le système de crypto de Apple, Google, critiquer les affaires, c'est important. Il n'y a aucun système qui est parfait. Puis ces voix-là sont importantes qu'ils soient soulevées aussi. C'est la fin de mon très, très, très long laïus finalement.
Ah, c'est correct, ça. Faut que ça sorte une minute, ne garde pas ça en dedans. Mais, là-dessus, c'est un petit dossier que je vais te laisser en primeur, laisser savoir là, que je suis en train de valider. Mais regardez ça sur votre propre temps. Lorsque vous approchez une zone urbaine, vous allez voir, il y a des petites antennes blanches là, qui sont inclinées de peu près 20-30 degrés vers l'intérieur, vers le bas. Et ce sont des antennes qui répondent à la fréquence de 2,4 GHz. 2,4 GHz, ça représente le Bluetooth, ça représente du Wi-Fi, évidemment. Là-dessus, il y a quelques années, le ministère des Transports a mis ça en place pour être capable de faire la détection de la densité des véhicules qui se déplacent, là, peu importe. Et ça, c'est à travers l'Amérique du Nord. C'est un projet là, que toutes les villes ont en place. Ma seule préoccupation, c'est en principe, on ne devrait pas utiliser justement la collecte des MAC adresses qui passent à travers ce réseau-là pour être capable d'en faire le filtre et le suivi, c'est-à-dire la détection de personnes qui n'ont pas d'affaires à sortir. Fait que c'est là que j'essaie d'aller chercher justement les réponses à ça, parce que ça, tant qu'à moi, ça devient un outil fort intéressant, anonyme présentement, mais qui pourrait peut-être pas le devenir s'il y a une exigence de restriction. Et ça en deviendrait des capteurs avec lesquels détecter les automobiles qui se déplacent, parce que les automobiles modernes, la majorité, ils ont tout un Bluetooth ou un Wi-Fi intégré que tu peux pas l'éteindre. Et ça, ça devient intéressant comme faire un peu pour traquer.
Il y a entre autres ça, aussi la pression des pneus qui émettent des ondes aussi. Il y a un paquet de bidules dans les autos modernes qui font ce genre de choses-là. Si ce n'est pas nos propres cellulaires qui émettent beaucoup de bruit dans ces fréquences-là. Par ailleurs, les cellulaires modernes ont toutes de la randomisation des MAC adresses, qui sont un peu plus difficiles à traquer qu'ils étaient traquables il y a quelques années. Les vieux cellulaires sont encore très faciles à traquer, les plus récents le sont moins. Mais si on veut vraiment aller dans cet esprit-là, nos identifiants uniques de cellulaires ne changent pas, n'ont pas ce degré de rotation-là. Et eux aussi peuvent nous servir à nous traquer. Et ça aussi, ça peut devenir un peu énervant. Puis on n'a pas nécessairement besoin de parler aux fournisseurs cellulaires pour savoir les cellulaires qui circulent un peu partout. Fait que tout ça en tant que protection de vie privée, c'est un peu achalant.
Bon, mais ça fait partie de l'équation pareil, là, que vu que les appareils sont quand même en fonction, la majorité 24/7, ben c'est ça, ils ont un bon échantillonnage depuis plusieurs années pour être capable de comprendre le pattern de quelqu'un.
Oui, ben l'élément là-dedans, puis c'est ça qui devient intéressant, puis un peu notre rôle, c'est de mettre dans l'avant-plan que ces compagnies-là font ça depuis des années, parce que la capacité, elle est présente depuis des années.
Exact. Oui.
Donc, c'est important qu'en tant que citoyen, de savoir dans quoi on s'expose, puis les choix qu'on fait en tant que société. Donc, cela en est quelques-uns. Nous allons avoir l'occasion de revenir sur ce sujet bien en masse. On a déjà parlé beaucoup, on va probablement parler beaucoup parce qu'on est très intéressé à la protection de la vie privée sur différentes facettes et sur son utilisation, mais on va sûrement y revenir. Là.
Oui, parce que je mettais dans l'ordre des nouvelles, Nick, à Moscou présentement et quelques autres villes de même en Europe, ils ont décidé, eux autres, qu'ils ont fait un enregistrement centralisé. Géré par la ville. Et qui veut aller se promener dans la ville doit s'enregistrer sur un site web et recevoir un QR code pour être capable de se faire authentifier par les forces de l'ordre. Ceci dit, si tu te permets d'aller dans la ville, en dehors des heures ou des journées qui t'es allouée, ou dans peu importe la situation, et le policier intercepte et fait le scan du QR code, ben là, il y a des amendes salées qui sont rattachées avec. Donc, c'est ce genre de contrôle de population-là qu'il faut pas abdiquer. Parce qu'il ne dit mot qu'on sent, puis je verrais mal qu'on s'en aille là sans rien dire. Parce que on est capable, je crois, comme société, de continuer à évoluer de la façon qu'on évolue. On va bien s'en tirer. On n'est pas obligé d'imiter les autres parce qu'ils le font ailleurs de cette façon-là. Il y a d'autres moyens de le faire.
Effectivement, nos valeurs de la société ne rejoignent pas nécessairement ça. Puis c'est important qu'on n'oublie pas ces valeurs-là dans le moment.
Il y a bien notre authenticité, ben oui.
Oui, qu'on conserve, qu'on continue d'aller là. Puis c'est, citer Steve, aller parler à votre député, c'est important. Je suis moins de cette nature-là, mais j'ai fini par me convaincre un peu plus que c'est important de prendre ce chemin-là.
Je suis content, Nick, d'avoir fait ça. Merci.
Et basculons sur une autre série de nouvelles qui sont plus au niveau de la désinformation ou la misinformation en anglais ou ce que maintenant notre cher président américain a popularisé sous le nom de fake news. Il y a plusieurs nouvelles qui, par rapport au coronavirus, qui mériteraient d'être approfondies puis de juste ne pas mordre à la mission qui nous est lancée.
Oui, puis j'en ai vu l'expérience avec Facebook cette semaine par une nouvelle mesure qu'ils ont mis en place. Et là, ils se veulent faire encore une fois la police de l'information sur leur plateforme. Je veux dire, ça leur appartient, là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tant mieux, je veux dire, parce qu'il y en a des affaires assez loufoques. Mais l'avertissement que je me suis fait servir, c'est par rapport à je mets beaucoup de trucs humoristiques sur mon portail personnel pour être capable de garder le moral élevé de tous ceux qui m'entourent. Et après ça, Facebook a dit non, cette photo-là, ça va à l'encontre des règlements et de qu'est-ce qu'on veut que Facebook ait comme façon de voir la vie. Là. Mettons ça comme ça. Là. Je paraphrase. Et c'est encore là, c'est des jokes par rapport au contexte de COVID-19. Mais il faut croire que c'était trop à un deuxième degré pour être capable d'en faire du discernement. Fait que donc, il y a sûrement quelqu'un quelque part sur la planète parmi les 2 milliards d'usagers, plus, qui a dit « Hey, ça affecte vraiment, c'est pas correct, là, on va classifier ça comme étant malicieux. » Fait que nécessairement, aussitôt qu'il détecte le même genre de set de photos, là, à ce moment-là, c'est tagué, puis là, il t'envoie un petit billet, puis une petite contravention Facebook, puis là, t'as pas le droit d'avoir ça. OK. Mais il reste fondamentalement, ça, c'est une plateforme privée, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Qu'en serait-il du gouvernement qui en ferait la même chose dans la société? Donc, ferait la police de l'information sur qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire selon encore là des articles de loi, dont l'article 181 du Code criminel qui dit qu'on ne devrait pas justement faire de la désinformation sans en avoir, tu sais, qui peut affecter vraiment là, le contexte de la population. Laissez-moi vous retrouver, je l'avais mis pas loin, il a disparu. Et je lis l'article, on va la lire juste pour le fun. Là. Parce que ça vaut à peine. Ça, c'est pas juste les avocats qui devraient lire ça. Ça veut dire que nul n'est tenu. Comment on dit ça, Nick, déjà, là?
Nul ne doit ignorer la loi. Effectivement, tout citoyen devrait avoir une connaissance minimale des lois. Peut-être pas dans le grand détail de donner des avocats, mais au moins savoir dans quelle société on vit, parce que surtout que le criminel est une représentation de l'éthique et la philosophie de société dans laquelle on est. Là.
Oui, exactement. Et ça, ça fait partie d'un cas qui est arrivé en 1992 d'un nommé Zundel. Mais ça, c'est un cas extrême parce que là, lui, c'en est un qui propageait la nouvelle disant « Y a-tu vraiment 6 millions de Juifs qui sont morts à la Deuxième Guerre mondiale? » Et là, à travers justement cet article-là, il y a eu un jugement qui lui a été défavorable. Parce que oui, tu as une liberté d'expression en quelque part dans le pays. Ça, c'est donné, c'est garanti par la Charte des droits et libertés que je crois cette semaine, Nick. C'était quoi le 10e anniversaire qu'on a fêté de la Charte? Je l'ai oublié parce que c'est...
Est arrivé en 82, la Charte.
82. Donc, ça fait quand même un méchant temps, là. Fait que là, on arrive avec justement là, cette approche-là. Et quand on regarde l'article 181, ça dit « Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans, quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qui s'est fausse et qui cause ou est de nature à causer une atteinte ou un tort à quelques intérêts publics. » Ça rend encore pas mal la définition d'une fake news, ça.
Énormément, puis c'est très intéressant parce que je ne connaissais pas cet article-là spécifiquement. Et il est justement, semble très à propos dans le contexte dans lequel on vit actuellement. Là.
Et ça s'appelle diffusion de fausses nouvelles, l'article 181 du Code criminel. Donc, quelqu'un qui commence à générer de la cochonnerie en ligne pourrait être accusé de ce méfait-là, de diffuser de la fausse nouvelle. Mais encore là, il faut que ce soit... C'est qui est capable de dire c'est quoi de la fausse, c'est quoi de la vraie nouvelle? C'est tout un débat, ça, là. Ben, c'est facile de dire, lancer une accusation contre quelqu'un, tu sais, et après ça, va te débattre en cours. Oui, mais c'est quoi comment est-ce qu'on arrive à faire la preuve? Hey, c'est toute une affaire, ça, là. Je crois, à ce jour, Nick, c'est pour ça qu'on n'a pas entendu parler ben. Il n'y a pas beaucoup de fake news, de gens qui génèrent de la fake news qui ont été accusés de ça.
Ça doit être le fardeau de la preuve, doit être sur la couronne. Fait que c'est probablement ça pour ça que c'est énorme comme conséquence, parce que faut que la couronne soit capable de démontrer le fait que l'intention et la pensée criminelle. Donc, c'est très compliqué dans un cas. Puis, de toute façon, l'article de loi est très clair. Faut que tu propages volontairement donc l'action et faut que tu aies une intention de vouloir causer préjudice. Dans un contexte dans lequel on est, c'est difficile, puis on a déjà de la misère avec les crimes plus basiques et plus sur l'humain, que de commencer à s'attarder à des choses comme ça, puis des cases qui doivent être excessivement compliqués à faire. Il faudrait que là, je trouve un procureur pour lui en jaser, voir à quel point la marche elle doit être excessivement haute pour réussir à démontrer des choses comme ça. C'est sûr que la marge doit être haute pour pas que l'État accuse de façon démesurée, mais en même temps, dans un univers où le fake news est rendu le quotidien, si on veut, de bien des choses, ça serait commencé à être important qu'on apporte peut-être des précisions ou qu'on raffine cette loi-là pour faire état de la société dans laquelle on vit maintenant.
Tu sais, dans le cas de Zundel de 92, Nick, ça a été une décision en Cour suprême de 4-3. Qui ont donné raison à la couronne de dire, lui, là, ça a été un fouteur de troubles, puis qui a abusé de son droit d'expression. Parce que c'est pas parce que c'est inscrit dans la charte que ça donne le droit de tout dire, en quelque part. Cependant, ça a été statué pareil que la loi 180, l'article 181 serait inconstitutionnel. Mais c'est là que, donc, vois-tu, ça tombe dans une zone grise. À savoir, c'est-tu vraiment, donc, elle était justifiée, cet article de loi-là, ou bien il y a vraiment matière à la réécrire ou la revoir ou l'effacer complètement, tu sais? Ça peut aller dans cette direction-là.
Moi, je n'irais pas dans l'effacement parce que clairement, de toute façon, ce que la Cour suprême a jugé sur ce cas-là, dans le temps où les fake news étaient quelque chose de plutôt rare, il n'était pas une chose qui est répandue.
Exact. C'était pré-Internet, ça-là. Là.
Donc, c'est intéressant de voir. Je pense que si on remettait le cas à maintenant, le juge, ça ne serait peut-être pas 4 contre 3 qu'on aurait eu un jugement favorable à la couronne. J'ai l'impression que le poids serait beaucoup plus probant face à la couronne maintenant qu'à cette époque-là. Parce que les univers, les perceptions ont changé, les temps ont changé aussi.
Ouais. Fait que tout ça pour dire que ça n'en est un, mais en même temps, du côté État-nation, ben là, il y en a qui ça donne à cœur joie de faire, de générer de la fake news. Et ça, ben, on a nos amis en Russie, en collaboration avec la Chine et vice-versa, qui se font un plaisir de générer sur les médias sociaux les recettes miracles, les recherches factices, tout ce qu'on trouve que fantastique, puis même encore là, des histoires d'il y a l'année passée, 2 ans, 5 ans, qui ramènent en avant-plan les conspirations avec le gouvernement qui est en arrière de tout ça. Je veux dire, ça va de tout bord, de tout côté. Et quand je vous dis ça, c'est pas fantasmagorique. Il y en a beaucoup de ces histoires qui ont été retracées à des agents russes, à des agents chinois qui font des opérations d'information. Une opération d'information, c'est d'être capable d'influencer une population et de la faire réfléchir ou agir dans la direction que l'influenceur veut bien. Et dans ce contexte-là, ils ont tout intérêt à continuer à générer du bruit. Quand je parle de bruit, là, c'est vraiment de la fausse information qui est tout partout et qui nous met comme population, nous met en réflexion, nous met justement en incertitude face au gouvernement, face aux directives officielles. Et regardez ce qui se passe aux États-Unis au Sud. Je veux dire, là, tout le monde commence à se rebeller contre le pouvoir fédéral versus le pouvoir de l'État pour les libertés fondamentales garanties par la Déclaration d'indépendance, me semble, non?
La Constitution américaine.
Merci, la Constitution.
L'article 2.
Pourquoi j'ai oublié ça aujourd'hui?
Je pense que c'est l'article 2 qui est présentement cité de la Constitution américaine sur lequel les gens se rebellent. Mais en même temps... Cette rébellion-là est faite de façon à ce que c'est orienté aussi. Est-ce que c'est un fake news qui oriente les gens contre lutter contre un fake news? C'est vraiment un cas étrange. J'espère que des juristes américains vont se pencher sur cette question-là, parce que c'est très intéressant ce que ça va faire. Là.
Oui, puis quand tu parlais de brush fire tantôt, donc un feu de brousse, là, ça en est un présentement. Juste avant ce matin, hein, je voyais Fox là, qui diffusait où sont les prochains sites de manifestation. Et invitait les gens à aller participer à ça, si j'ai bien vu. C'est fou, là. Fait que donc, au lieu d'emphaser le confinement, puis il y a même un shérif au Wisconsin qui est très populaire, le bonhomme, il a beaucoup d'influence, lui a ouvertement déclaré qu'il ne croit pas à ça, lui, le confinement, puis qu'il disait au monde, faites ce que vous voulez, moi, je ne vous arrêterai pas. Tabarnak! Puis je sais pas, là, mais c'est vrai que les Américains, ils sont très fermés sur qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Fait que s'ils ne sont pas capables de réaliser comment est-ce qu'ailleurs dans le monde, les sociétés qui ont dit « fuck off, on s'isole pas », comment sont malmenées, hein, comme la Suède, comme l'Italie, la Chine au début, là, ils ont laissé ça aller. Tu sais. Fait que c'est comme ça qu'il faut vraiment faire attention à qu'est-ce que c'est cette fausse... Là, on parle de faux nick, mais là, je viens de citer des autorités qui encouragent la population directement à faire le contraire. C'est weird en tabarouette. Là. Fait que moi, on va restreindre ça d'abord comme discussion ici au Canada puis au Québec. Puis je crois que les autorités d'ici font un bon travail pour nous informer correctement. Et les journalistes sont là aussi pour les tenir au pas, dans le sens qu'ils ne s'en vont pas dans toutes les directions. Ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et c'est ça que ça sert, le journalisme, vraiment, de questionner. Et soyez pas gênés de poser des questions aux journalistes qui peuvent vous représenter aussi. Mais n'oubliez pas la représentation aussi législative qui est toujours là pour vous autres, parce qu'il y en a beaucoup de députés qui sont impliqués vraiment dans la société en temps de pandémie, alors qu'il en connaît, moi, que c'est des fantômes, puis il ne faut pas appeler là trop souvent pour y réveiller.
C'est à géométrie variable, mais effectivement, comme tu mentionnes, le journalisme et le contre-pouvoir, c'est notre chaîne garde qui, parmi d'autres institutions que nous avons, permet justement de rebalancer les pouvoirs entre les différentes forces qui s'affrontent dans ce contexte-là. C'est sûr que c'est un peu triste ce que tu relates sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le fait qu'ils se basent sur des croyances et non sur des faits pour prendre des décisions dans un contexte où on peut plus faire ça. On n'est plus, là ça va être un peu osé ce que je vais dire, mais tu sais, on n'est plus à l'époque médiévale sur des bases de croyances, on prenait des décisions. Maintenant, on doit normalement se baser sur des décisions qui sont basées sur la science, parce que je veux dire, ça a comme fait ses preuves un petit peu, la science. Tout ça est un peu fascinant. Là. Puis j'avais même vu un article, là, je le retrouve, puis j'essaie de le trouver pour le remettre dans les show notes, mais je vous garantis rien, qui est justement, un journaliste avait posé la question à un anti-vaxxer sur le fait que s'il y avait un vaccin pour se protéger, se prémunir contre le coronavirus, accepteriez-vous de le prendre? Et plusieurs anti-vaxxers ont comme hésité. Puis certains étaient même favorables à se faire vacciner contre le coronavirus. Fait donc, toutes ces notions-là, soyez éclairés dans ces démarches-là. Souhaitez que vos chefs d'État, parce que ce qu'on voit au Québec et au Canada, sont éclairés par la science, c'est-à-dire qu'ils sont accompagnés par des gens de science, par des médecins qui sont praticiens, des gens qui connaissent ce qui se passe. Donc, souhaitez que vous êtes dans une situation comme celle-là parce que ça aide à prendre des décisions qui sont beaucoup plus cohérentes, qui sont moins influencées par des vues qui sont peut-être, d'un point de vue scientifique, on pourrait dire farfelues. Bref, t'avais-tu fait le tour des nouvelles pour le fake news?
Ben, un simple rappel d'usage, je veux dire, si vous avez des doutes sur la provenance de certaines nouvelles, allez vous informer. Et j'encourage à regarder justement les décrypteurs à Radio-Canada. Ils font un très beau travail justement pour aller démentir les fausses nouvelles et vérifier avant de diffuser. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Je me suis fait avoir une couple de fois le mois passé croyant que c'était des sources fiables. Et juste un exemple de source fiable, j'avais été voir vraiment, là, c'est Business Insider qui avait diffusé la nouvelle comme quoi qu'il était pour fermer l'espace aérien nord-américain. Et ça s'est avéré que par le temps que je commence à pouvoir vérifier mes vérifications et de le diffuser, de mettre en vraiment des gens en veille, c'était déjà effacé à la source. Et donc, faisant mon travail après ça de vérification, comment se fait, ben je sais pas, le sérieux, là. Pourtant, Business Insider, c'est des gens que j'ai en estime, qui font un beau travail, mais que d'après moi, ils se sont fait passer un sapin. Donc, même les journalistes peuvent être à risque là-dessus. Fait que c'est ça, de vérifier les sources et de s'assurer que vous ne diffusez pas du n'importe quoi. Encore cette semaine, je démentissais la nouvelle comme quoi que le gouvernement du Québec donnerait une prime de rester à la maison de 756 $. Alors que c'est complètement factice. Les gens ont commencé à répliquer ça. Il y en a qui disent, ben oui, regarde, c'est juste drôle. Ben non, mais faut pas. Non,
c'est ça, ne participez pas au problème des fake news.
C'est ça.
Lutter contre ce phénomène-là, c'est ça qui est important. Là. Ou quitte à mettre un indicatif ou un label, une étiquette qui permet de décider que c'est une blague. Puis un peu pour revenir à ce que tu disais que Facebook t'avait mis à l'amende parce que t'avais voulu propager quelque chose que tu trouvais personnellement très drôle. Mais
non, finalement... je ne l'ai pas propagé, Nick. Je l'ai mis dans un groupe secret.
Ouais, ben en tout cas, tu l'as propagé, là, mettons.
Non, mais c'est ça qui est ironique, là.
Ouais, ben c'est...
Je peux comprendre. Je le mettrais sur une page publique, tout ça. Parfait, là, tu contribues, comme tu dis, à mettre du gaz dans le feu. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment avec un cercle très fermé de personnes...
Le bras de Facebook, il est long.
Ah, mais il voit tout partout.
Oui, bref, mais c'est ça, si on peut avoir une étiquette qui dit « OK, gars, ça, c'est vraiment, on s'amuse, on fait de l'humour, puis ce que je dis n'est pas authentique. » Pour les gens qui ne sont pas capables, puis sur les algorithmes d'intelligence artificielle de Facebook, ne sont pas capables de distinguer entre l'humour, puis ce qui est... Sur du deuxième niveau, c'est indisponible au AI pour le moment.
Non, ils ont de la misère à atteindre le premier niveau.
Bon, ils sont limités. Mais c'est ouais. Ça, mais comme tu disais, même les journalistes sont susceptibles à tomber dans le piège aussi. Puis d'où le fait de toujours s'informer au moins sur deux sources journalistiques différentes, lesquelles ne sont pas ensemble. C'est-à-dire, quand on parle de deux sources journalistiques, c'est tout ouais. L'Empire québécois, c'est une source. C'est pas, si vous voulez comparer deux sources, c'est pas genre TVA et Journal de Québec. C'est pas deux sources distinctes, c'est la même, sensiblement la même source. Au Québec, ensuite, il faut aller voir les autres journaux qui sont disponibles ou les autres médias qui sont disponibles pour comparer la nouvelle et comparer avec les nouvelles ailleurs dans le monde aussi. On est capable de s'informer ailleurs dans le monde. Informez-vous avec des journaux. Si vous parlez que, si vous lisez que le français avec des journaux européens, belges, français, suisses, si vous avez capable de lire l'anglais, tout ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Canada anglais, ce qui se passe aussi en Europe anglophone, juste pour vous faire plusieurs idées pour être sûr que ce qu'on vous remplit, ce qu'on vous dit comme information est exact.
Mais encore là, on revient développer votre esprit critique.
Puis dans le renseignement, je veux dire, c'est une des règles d'or. Fie-toi pas à la première rumeur t'entends. Et tant que c'est pas confirmé, ça demeure à l'état rumeur. Donc, 3 à 5 sources qui viennent corroborer, différentes, qui viennent corroborer une nouvelle. Souvent, ça va être mauditement plus fiable que juste de dire que c'est à côté. Puis, tu sais, c'est une des raisons, je crois, Nick, qu'on met les show notes là, pour être capable d'arriver à dire que on génère pas ça de notre figment imaginaire. Ça vient vraiment de faire apporter à travers le monde. Là, puis, faut continuer à garder cette authenticité parce que sinon, justement, on contribue à ce que ça soit dérisoire.
Oui, ben c'est ça, on participe dans nos show notes. On ne met pas 3 à 5 sources par nouvelle, mais minimum, on a vérifié nous-mêmes d'amont en amont. Puis on est, comme tu disais, comme Business Insider, on est susceptible aussi de se faire rouler parce qu'on n'est pas, on est des humains, on est comme tout le monde. Donc, c'est possible de ce genre de choses-là, mais on a fait un effort quand même qui est quand même assez grand. Puis, comme on est plusieurs, Benjamin, on se challenge entre nous autres, fait qu'on est capable d'arriver à ce genre de choses. Alors que la dernière nouvelle, qui est finalement la bonne nouvelle de la semaine.
Et oui, la compagnie ResMed, qui sont des fabricants, eux autres, de ventilateurs pour ceux et celles qui sont atteints d'apnée du sommeil, qui, c'est un particulier, en fait, qui a soumis ça et qui a été capable de hacker, vraiment hacker, un respirateur artificiel, probablement le sien ou je ne sais pas trop, mais que pouvant permettre justement une aération en urgence là, pour être capable de faire ça. Parce qu'il y en a des professionnels qui ont dit hey, c'est pas vrai, c'est pas un vrai respirateur, ça là. Je sais, tout le monde le sait, mais en temps d'urgence, en temps de besoin criant, voici une option. Et ça, c'est des appareils, tu sais, de 700, 900 piastres qui seraient capables, avec un bypass software, de tomber en mode continu, ventilation continue, et pour être capable d'avoir même un peu plus de force de pousser pour que la personne soit médicamentée et, à ce moment-là, assurée d'avoir le flot d'air qui s'en va à elle. Fait que donc, ça, c'est là que, autant qu'en manufacturation, ça a été rapide, que beaucoup de fabricants se sont virés de bord, sont capables d'en faire, mais aussi, voici comment est-ce qu'on peut économiser. Et ceux qui savent qu'il y en ont à la maison de ces appareils-là, ben, ils pourraient à ce moment-là les valider, parce que la compagnie ResMed l'a validé, c'est-à-dire le code FDA a prouvé même la modification, parce qu'ils ont dit hey, « oui, c'est une bonne idée, puis on va pouvoir s'en servir. » « Given the recent FDA exemption, ResMed could do this relatively quickly, the researcher says. » Donc, ils l'ont soumis le processus, l'administratif est d'accord avec le bypass. Ça vient à ce moment-là une solution viable, parce qu'il y en a quand même beaucoup de gens partout qui en ont de ces machines-là pour respirer le soir quand ils dorment. Ça viendrait à ce moment-là une bonne source d'aide pour tout le monde.
Absolument. Puis là, tout ça ressoulève le cas, puis j'espère que ça va servir de cas pour avancer le cas. Tous les tinkers, tous les makers, tous ceux qui aiment taponner dans les choses puis modifier ce que nous ont vendu les différentes compagnies pour faire peut-être des fois d'autres choses avec ces objets-là ou améliorer le fonctionnement ou aller plus loin. Donc, ce qu'on pourrait appeler du hacking de firmware, c'est-à-dire de prendre le firmware qu'on nous a mis dans les mains puis de faire autre chose avec celui-ci. J'espère que ça va peut-être réveiller les législateurs sur le fait d'atténuer les règles de ultra sévères, surtout aux États-Unis, entre autres, qui viennent bloquer toute cette capacité-là des gens à pouvoir mener à une autre utilisation d'un objet qu'ils ont acheté. Là.
Je pense tout de suite en disant ça, Nick, aux tracteurs des fermiers.
Oui, c'est l'idée que j'avais.
Ben c'est ça, là, eux autres sont vraiment pognés à la gorge, là, puis ils se trouvent une autre vocation soudainement, parce qu'eux autres, si l'hiver, des fois, il n'y a pas grand-chose à faire, fait qu'ils trouvent le moyen de commencer à développer des techniques de hacking pour bypasser certaines protections, parce que tout ce qui est d'automatisme dans un tracteur, ils n'ont pas le temps d'attendre après le réparateur qui est dans 3 jours, qui va se présenter avec une facture de 10 000 $. Ils veulent avoir le résultat maintenant, puis ils veulent que ça marche. Fait que s'il y a des fermiers qui ont besoin d'aide, je suis le premier à aller les aider pour être capable de sortir de merdier de même. Mais effectivement, rappelle-toi du terme, Nick, ça se peut-tu, le homebrewing qui était ouais, justement?
Ça en est un des termes, oui.
Fait que ça va être intéressant parce que le homebrewing se réfère à justement développer sa propre élixir à la maison. Oui. Et ça va aller dans le même sens avec tout ce qui est nos produits domestiques, les fameux IoT, que si ça n'est plus pour une affaire, on peut s'en servir à d'autres choses, certainement.
Ben, ça fait partie d'une des choses. J'ai arrêté, entre autres, de financer des projets Kickstarter qui étaient d'électronique parce que la compagnie ou l'individu disparaît puis mon objet que j'ai procuré devient inutile. Donc, il devrait y avoir une capacité d'autoriser puis même d'obliger les personnes ou les compagnies qui font faillite ou abandonnent des produits. Puis on parlait il y a quelques épisodes de Philippe Hugh aussi, qui auraient l'obligation de diffuser leur code publiquement pour permettre aux gens de continuer ces appareils à fonctionner si l'opérateur décide de l'abandonner.
Fait, je pense qu'on en parle avec les parleurs Sonos et ces affaires-là, là, comme tu dis.
Oui, ça devrait devenir une obligation légale que si un fabricant décide d'abandonner un produit, qu'ils doivent libérer le code qui est sous-jacent à ce dit produit-là pour que les gens puissent continuer à l'entretenir, le faire vivre plus longtemps que ce que le fabricant a décidé que c'est plus assez payant pour lui.
Effectivement, je crois que ça va faire partie de la nouvelle société dans laquelle on va aller, là, d'arrêter justement de capitaliser sur le bien, le bonbon pas cher à jeter, là, parce que je crois que le Made in China va être sérieusement révisé par tout le monde. Tout le monde, je crois, réalise que c'est un gros désavantage, beaucoup plus que payer de 2 piastres de plus et de le garder ici. Fait que je crois que notre modèle, notre vision des affaires va changer avec ça.
Le modèle manufacturier va probablement changer aussi avec ce qui s'en vient. Fait que de toute façon, il va falloir que les chefs d'État réfléchissent à comment on va relancer l'économie.
Oui.
Et le volet manufacturier est généralement un moteur important des économies dans lesquelles on vit. Donc, je pense qu'on va avoir quelques questions très profondes à se poser sur les choix qu'on a faits et comment ces choix-là doivent être modifiés pour l'avenir.
En effet.
Ça complète l'épisode aujourd'hui qui est quand même assez long et assez funky. C'est toujours ça avec Steve, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir immense parce qu'on débat d'idées qui permettent, pour mon personnel, j'espère que c'est les auditeurs ont le même plaisir, à aller plus loin sur certaines idées et de faire avancer des sujets.
Oui, puis c'est là que c'est important de comprendre que la technologie, c'est pas le seul aspect qu'on doit jaser, mais ça va dans tous les aspects de notre vie. Et si on améliore tous ces aspects-là, on va être capable d'en profiter dans notre vie davantage. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est le même
jeu. Je suis entièrement d'accord, puis c'est une des raisons pour que je fais le podcast, c'est de partager des idées puis aider les gens à avancer. Puis si on peut avoir un retour sur ces affaires-là, j'ai fait ma contribution.
Le second.
C'est bon, mais bonne semaine.
Bonne semaine, l'after.